Vous écoutez
RMC. RMC, Apolline Matin.
Votre journal en direct sur RMC et RMC Story avec Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Charles, bonjour à tous. Le début ce matin d'un immense voyage pour la flamme olympique qui va voyager à travers le pays. Elle va sillonner la France pendant 3 mois et ça commence là, ce matin, depuis Notre-Dame de la Garde à Marseille où la soirée s'est prolongée jusqu'à tard hier soir pour fêter les JO. Plus de 200 000 personnes étaient sur le Vieux-Port.
Et à 8h40, on sera en direct avec l'un des relayeurs de la flamme. Vous le connaissez bien sur RMC, c'est Éric Dimeco. Qui sera avec nous.
La réponse d'Israël ce matin, colère après la menace cette nuit des États-Unis qui envisagent de suspendre leur livraison d'armes en cas de grande offensive à Rafah. Et le rêve n'est pas qu'olympique. Marseille rêve aussi d'Europe. Demi-finale retour de Ligue Europa ce soir pour l'OM chez l'Atalanta à Bergame.
C'est dans moins de 20 minutes maintenant que va démarrer le relais de la flamme.
Oui, elle va passer de main en main pendant 3 mois. 11 000 porteurs dans plus de 400 villes jusqu'à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques fin juillet à Paris. Et ça commence donc là, ce matin, depuis la Bonne Mer à Marseille, où on va avoir droit à une immense carte postale aujourd'hui. La flamme olympique qui va passer dans tous les endroits emblématiques de Marseille. Julien Richard, vous êtes d'ailleurs en direct de Marseille ce matin pour RMC avec forcément une grande connotation ballon rond.
Oui, l'OM et les symboles de la ville au cœur de cette arrivée de la flamme depuis hier, hein, ici à Marseille. C'est Basile Boli, champion d'Europe en 1993 avec l'Olympique de Marseille, qui va lancer dans moins de 20 minutes maintenant ce relais de la flamme. Son but de la tête en finale contre Milan, un monument marseillais au pied d'un autre monument symbole de la cité phocéenne, donc la basilique Notre-Dame de la Garde. Basile Boli passera le relais à Colette Cataldo, 83 ans, supportrice historique de l'OM, fondatrice des Dodgers et qui a même sacrifié le déplacement à Bergame pour la demi-finale de Ligue Europa pour porter cette flamme olympique. Des glorieux anciens à l'honneur, le ballon d'or Jean-Pierre Papin, Éric Dimeco, mais aussi l'actuel milieu de terrain, blessé en ce moment Valentin Rongier. La journée s'achèvera évidemment par le Vélodrome avec un relais sur le toit du stade par le rappeur marseillais Soprano qui était en concert hier soir sur le Vieux-Port. Et puis c'est une autre légende de l'OM qui allumera le chaudron devant le stade en fin de journée, l'Ivoirien Didier Drogba.
Et puis Julien, ne bougez pas, on vous retrouve dans 17 minutes maintenant, on va vivre ça en direct avec vous sur RMC, ce départ du relais de la flamme olympique.
Bon, les images aujourd'hui promettent d'être magiques. Celles d'hier ont fait le tour du monde, l'arrivée de la flamme sur le Belém, les anneaux olympiques, par la patrouille de France dans le ciel marseillais, le rappeur Jul qui allume la vasque olympique, c'était la surprise hier. Le nageur Florent Manaudou, comme prévu, premier porteur. Et donc, le concert dans la soirée des rappeurs, les cousins Alonso et Soprano.
Ah, le concert, c'est la bombe, hein, de la bombe atomique.
Oh, j'adore, l'ambiance est top, je suis là depuis 11h du matin. Parce que je suis très fière d'être marseillaise. Je suis fière que notre ville représente les JO. Mais l'ambiance est top parce que c'est Marseille. L'ambiance est marseillaise.
Incroyable. Alonso Soprano, c'est tuerie. Franchement, les Marseillais s'amusent. C'est une dinguerie. Vraiment, c'est incroyable.
Voilà, ce concert qui était gratuit a commencé avec beaucoup de retard parce qu'il y avait trop de monde sur le Vieux-Port. C'est dire l'engouement. Le Vieux-Port qui a été fermé, en partie évacué. Même il y avait 230 000 personnes selon la mairie au lieu des 150 000 qui étaient annoncés, attendus. Les marins-pompiers parlent de deux mouvements de foule qui, heureusement, n'ont pas fait de blessés. Emmanuel Macron espère désormais que les Jeux Olympiques vont, dit-il, entrer dans la vie des Français. Et alors, c'est une des innombrables conséquences des Jeux Olympiques. On en parle ce matin sur RMC. Le risque de pression accru dans les prisons françaises. Lucille Pascanet, journaliste au service police-justice à RMC en direct ce matin. Des prisons françaises qui sont déjà surpeuplées.
Oui, ça risque vraiment d'accentuer la pression, ça ne fait pas doute, puisque l'afflux de personnes, de touristes venus pour les JO pourrait mener à plus de délinquance et donc plus d'interpellations. Mécaniquement, ça peut causer plus de comparutions immédiates et in fine plus d'incarcération. Et ça alors que, vous le disiez, la situation est déjà critique dans l'établissement pénitentiaire. En avril, près de 77 500 personnes incarcérées pour moins de 62 000 places, 17 prisons avec un taux d'occupation de plus de 200%. Alors, pour Wilfried Funk, le secrétaire national du syndicat UFAP UNSA Justice, dans les prisons, ça risque tout simplement d'exploser cet été.
Aujourd'hui, c'est une véritable cocotte minute. Ça va sûrement péter à un moment ou à un autre. Est-ce que c'est du côté des détenus, on va se retrouver avec un été chaud bouillant et des mutineries sur cours de promenade? Ou est-ce que derrière, c'est les personnels qui commencent à en avoir un peu ras-le-bol, la grogne qui monte, et qui, à un moment donné, se traduira par des mouvements de blocage devant les tôles, avec des pneus et des palettes qui brûlent? On est là dans une situation vraiment très complexe, avec une montée en charge du nombre de détenus qui aujourd'hui se conjugue avec une baisse des effectifs de personnel. À un moment donné, ça va pas tenir, non?
pour une prise de conscience des pouvoirs publics. Son syndicat se dit prêt à se mobiliser dans les prochaines semaines.
Il est 8h05 sur RMC et Israël répond ce matin aux États-Unis. Les Israéliens jugent très décevante la menace cette nuit du président américain Joe Biden, celle de stopper les livraisons d'armes en cas de grande offensive à Rafah dans le sud de la bande de Gaza. Voilà ce que vient de dire l'ambassadeur d'Israël à l'ONU, c'était il y a quelques minutes à la radio israélienne.
C'est une déclaration très dure à entendre et décevante de la part d'un président envers qui nous avons été reconnaissants depuis le début de la guerre. Il est assez clair que n'importe quelle pression sur Israël, n'importe quelle restriction qui lui est imposée, même de la part d'alliés proches soucieux de nos intérêts, est interprétée par nos ennemis et leur donne espoir.
Les mots seront scrutés aujourd'hui. Vladimir Poutine va prendre la parole en Russie. Les Russes qui célèbrent le 9 mai, le jour de la victoire sur l'Allemagne nazie. Mémoire que le président russe évoque sans cesse pour justifier la guerre en Ukraine. Les Européens réfléchissent à de nouvelles sanctions concernant le gaz russe. Le 9 mai, c'est aussi la journée de l'Europe et le hasard fait bien les choses. Ça tombe à un mois tout pile des élections européennes. Mobilisation générale de la majorité qui tente de remonter dans les sondages. On vient d'en parler. 29 des 35 ministres sont en déplacement aujourd'hui avec des interviews dans quasiment toute la presse régionale ce matin. Mobilisation générale aussi, Cyprien Pézril, pour les candidats donnés avec moins d'intention de vote dans les sondages qui tentent malgré tout d'exister dans cette campagne.
Les règles d'équité donnent peu de temps de parole dans les médias à certains comme Jean-Marc Governatori. Alors pour sa liste L'écologie au centre, il a collé 10 000 affiches sur les bords de route. Une méthode traditionnelle et un slogan provocateur.
C'est important de faire savoir qu'on existe puisqu'il y a des listes télévisées et des listes moins télévisées. La seule solution pour le bien commun, c'est la prise de pouvoir par l'écologie. Mais si vous cantonnez l'écologie à la gauche, forcément vous perdez les élections puisque les trois quarts des gens sont de droite.
Autre technique, aller chercher les Français au bout de leur rue. Comme pour Guillaume Lacroix, tête de liste Europe, territoire, écologie.
Toute notre campagne, on l'a fait hors des métropoles, dans les territoires où on ne verra pas de tête de liste en réalité. On est à portée de se faire engueuler, toujours. Les têtes des grandes listes, comme on dit, on ne sait jamais où les trouver pour les engueuler. C'est une vraie différence.
Pour susciter l'intérêt, Nathalie Arthaud, candidate lutte ouvrière, elle dramatise les enjeux.
On voit toutes ces guerres qui nous menacent d'une troisième guerre mondiale. Qui n'est pas inquiet de voir tous ces bruits de bottes, de voir tous les États se réarmer jusqu'aux dents? Il faut le dénoncer et il faut affirmer qu'une autre société est possible.
Des candidats qui, pour siéger au Parlement européen, devront dépasser la barre de 5% des voix.
C'est la dernière chance française sur la scène européenne depuis l'élimination de Paris avant-hier en football. Marseille, ce soir, en Italie, chez l'Atalanta à Bergame pour disputer sa demi-finale retour de Ligue Europa une semaine après le nul. Un partout au match aller. Jean Rességuier, vous allez commenter le match ce soir sur RMC. Vous êtes en direct avec nous ce matin. Vous avez vu les Marseillais à l'entraînement hier en Italie et vous les avez sentis déterminés à ne pas laisser passer cette chance de jouer à une finale.
Ouais, c'est aussi le discours de Jean-Louis Gasset devant les médias et auprès de ses joueurs. L'occasion de jouer une finale européenne est si belle qu'il ne faut pas passer à côté. Une manière de déclarer sa flamme à cette Europa League, garder le feu sacré d'un parcours européen qui ferait oublier beaucoup de choses dans une saison à rebondissement. On est prêt à aller au bout de la nuit pour rendre tout le monde heureux, a précisé l'entraîneur marseillais, sous-entendu jusqu'au tir au but. Hier, durant les 15 minutes autorisées, on a vu des joueurs extrêmement concentrés et appliqués. Quelques sourires aussi ou plaisanteries de la part du buteur maison Aubameyang, histoire de détendre un peu l'atmosphère. Ils sont tous conscients que c'est le rêve d'une vie pour un joueur que de disputer une finale. S'il y a eu de bonnes choses au match aller jeudi dernier, il y a eu beaucoup de frustration pour venir à Belgrade avec seulement ce score de 1-0. Ce soir, il faudra donc jouer un cran bien au-dessus.
Dans l'autre demi-finale ce soir, Leverkusen partira avec un avantage de 2 buts contre la Roma et ce sera une finale Real Dortmund le 1er juin. En finale, le Ligue des Champions, le Real qui a renversé le Bayern 2-1 hier soir. Alors c'est l'autre événement du moment en France, il n'y a pas que le foot et les JO. Il y a aussi le phénomène Taylor Swift qui débarque à Paris. La superstar américaine entame une tournée européenne avec 4 concerts à partir de ce soir à l'Arena de Nanterre. Il y a carrément des fans, des Swifties comme on les appelle, qui campent devant la salle. Nicolas Roper est allé les voir pour RMC.
Quand on demande à ses fans leur chanson préférée de Taylor Swift, chacune a sa réponse.
Moi c'est Champagne Problems. Moi, je pense que c'est A Place in This World.
La vingtaine, Marie-Lou, Megan et Bohème sont de véritables Swifties avec leurs t-shirts et leurs pulls à l'effigie de leur idole. Venues de région parisienne, de Picardie et de Bretagne, elles se sont rencontrées grâce à la chanteuse qu'elles adorent.
En fait, ça paraît surtout irréel, là, un peu. Ouais. Je me rends pas compte du tout qu'on va voir Taylor Swift. Vraiment, c'est ses paroles, sa façon d'écrire, qui me plaît vraiment chez elle, qui fait toute la différence. Je sais qu'elle fait un show énorme. Je vois déjà les préparatifs. Ça fait 3 jours qu'elle est là, je crois. pour monter la scène, c'est super long, les répétitions.
Tout est prêt pour accueillir la méga star américaine, rassure Raphaël Place, la directrice de la programmation de Paris La Défense Arena.
Ça reste un événement exceptionnel, l'artiste international qui a fait le plus de dates à Paris La Défense Arena. On a l'habitude d'accueillir des grands événements, mais comme sur tous nos événements, toujours beaucoup d'attention à chacun des détails. Les Swifties vont avoir de très belles surprises.
Taylor Swift qui attire des fans du monde entier. 30% des 180 000 spectateurs attendus à Paris viennent de l'étranger pour applaudir la superstar.
Taylor Swift, premier artiste à devenir milliardaire avec les seuls revenus de sa musique. Je pose la question, plutôt Taylor Swift ou plutôt Jul?
Ah, je suis plutôt Team Jul.
Team Jul.
J'ai enthousiasmé hier soir à Marseille.
Comme ça.
Mais j'ai peur de me fâcher avec l'armée des Swifties, donc voilà, je ne me prononcerai pas plus sur ce débat. Taylor Swift et Jul, oui, les deux stars de la chanson aujourd'hui. Il y en aura une troisième, c'est Slimane, samedi soir, la finale de l'Eurovision.
Ouais.
Mais oui, que d'événements à vivre, évidemment, et à suivre. Vous ne manquez rien en écoutant RMC. C'était le journal de Quentin Vinet qu'on retrouve à 9h tout à l'heure sur RMC. Il est 8h11.
À suivre dans Apolline Matin sur RMC.
Tiens, et en ce grand week-end de pont, on va partir tout de suite au Mont-Saint-Michel, deuxième site touristique de France, parfois victime de son succès. Alors, la direction a mis en place des mesures pour gérer les flux, mais se refuse pour l'instant à instaurer des quotas. C'est le parti pris de Thomas Velter, le patron du Mont-Saint-Michel, qui est en direct avec nous tout de suite sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Et beaucoup de messages ce matin sur l'appli RMC après l'arrivée de la flamme à Marseille et la soirée d'hier. Le choix du rappeur Jul qui fait débat pour allumer le chaudron olympique. Christian, lui, aurait préféré Zidane. Mais il faut se dire que l'avenir appartient aux plus jeunes et Marseille est à l'image de la jeunesse turbulente et enthousiaste, écrit Christian. Il est donc logique qu'on ait choisi Jul, même si personnellement, avec mes 64 ans, dit-il, je ne comprends pas ce qu'il chante. Voilà ce que nous dit Christian. Et Yann, un peu sur la même ligne, à 44 ans, Jul, ça m'intéresse pas trop, mais j'ai vu mon fils de 9 ans sauter de joie quand on a vu Jul. Il faut prendre conscience que la fête, c'est aussi pour les enfants, c'est pour tout le monde, nous dit Yann. Laurent, lui aussi, ravi de ce moment en famille hier pour regarder ces images à Marseille, qui nous a offert, dit-il, un spectacle grandiose et très émouvant. Puis enfin, il y a Pascal, pour qui Jul, c'était quand même la seule fausse note de la soirée. Un rappeur à capuche, dit-il, dans ce beau décor de Marseille. Mais la cérémonie d'arrivée de la flamme était magnifique. Vous continuez de réagir et de débattre au 32-16 et sur l'appli RMC.
RMC, Apolline Matin.
Charles Magnin.
Ricard, vous êtes bien sur RMC et RMC Story. On part tout de suite au Mont-Saint-Michel.
Le parti pris.
Le succès ne se dément pas pour le deuxième site touristique de France après Paris. Près de 20 000 visiteurs encore hier, mais gare parfois à la rançon du succès. Bonjour Thomas Velter.
Bonjour.
Vous êtes le directeur du Mont-Saint-Michel. On se souvient il y a un an de ces images du Mont pris d'assaut par les touristes. Il y avait du monde, trop de monde dans les ruelles exiguës. Ça peut être dangereux et puis surtout ça gâche forcément l'expérience des visiteurs. Alors Thomas Velter, ça vous avait poussé l'année dernière à annoncer des mesures incitatives pour désengorger le Mont-Saint-Michel. Qu'est-ce que vous avez mis en place cette année pour le pont de l'Ascension ?
Oui, tout à fait. Tout d'abord, merci de votre invitation. Il est vrai que c'est moi-même qui ai pris la photo l'an dernier, de manière tout à fait volontaire, parce que l'établissement public que j'ai le plaisir de diriger a pris conscience de ces enjeux. Il est tout jeune, ça fait 2 ans que nous sommes en place. Et aujourd'hui, l'enjeu du confort de visite est vraiment essentiel pour nous. Donc c'est vrai que depuis ce week-end de l'Ascension 2023, qui a été très compliqué pour les visiteurs, pour les services de sécurité, pour toutes les parties prenantes au Mont-Saint-Michel, nous avons mis en place des mesures. La première, c'est déjà de communiquer, de dire que le Mont-Saint-Michel, il ne faut pas venir seulement en juillet-août, comme 1 million de visiteurs le font chaque année, mais il faut venir à d'autres moments de l'année. Et là, j'ai la chance de vous parler depuis le Mont-Saint-Michel. Vous avez, en début de matinée, très peu de monde, des lumières incroyables. Donc déjà de la communication, nous avons fait des campagnes de communication dans le métro parisien notamment. Et puis ensuite, nous avons pris des mesures incitatives tarifaires. Très concrètement, vous payez un parking pour aller au Mont-Saint-Michel, il vous en reviendra moins cher en basse et moyenne saison, et il vous en reviendra plus cher en juillet-août. Et j'ajoute qu'en ce moment, le parking est gratuit, c'est le cas 10 mois sur 12 dans l'année, le parking est gratuit dès 18h30 au Mont-Saint-Michel. Donc c'est le moment idéal pour venir profiter de coucher de soleil. Et puis nous avons mis en place d'autres mesures, comme la réservation possible des places de parking sur des créneaux qui sont avant 10h le matin.
Juste qu'on soit très clair, Thomas Velter, pour ceux qui nous écoutent là ce matin, oui. On sait qu'il y a beaucoup de Français qui ont pris la route de la Normandie, de la Bretagne, qui voudraient venir aujourd'hui, demain, après-demain au Mont-Saint-Michel. La consigne, c'est quoi ? C'est de venir très tôt ou très tard ?
Alors, la consigne, c'est de venir avant 10h, ou après 15h. Voilà, on a même mis des panneaux sur les autoroutes qui mènent au Mont-Saint-Michel avec le message très clair, forte affluence, venez après 15h. Donc voilà, la consigne c'est celle-ci, en ce moment c'est les grandes marées, en plus on tombe sur un week-end de l'Ascension avec des grandes marées, donc le soir c'est vraiment le moment idéal pour venir au Mont-Saint-Michel.
Donc là ça permet d'étaler les visites dans la journée, et donc que ce soit moins bondé, que ce soit moins presque dangereux, parfois on en se souvient des images de l'année dernière, mais est-ce que vous pouvez envisager un jour de mettre en place les fameux quotas, c'est le cas par exemple sur l'île de Bréa en Bretagne, il y a aussi l'idée de la redevance, on en a beaucoup parlé du côté de Venise, est-ce que vous pourriez aller plus loin pour empêcher les pics d'affluence?
Écoutez, moi, le mot quota n'est absolument pas de tabou pour moi. Ça, c'est déjà c'est une chose. Et puis, par ailleurs, nous avons déjà des quotas, en fait, au Mont-Saint-Michel. Parce que 98% des gens qui viennent au Mont-Saint-Michel viennent sur les parkings. Or, les parkings, ils ont des capacités limitées. Donc, on a déjà des quotas. Ensuite, je tiens à préciser que le Mont-Saint-Michel, ça n'est pas un parc d'attractions. Ça n'est pas un musée. Et ça n'est pas une île totalement enclavée comme l'île de Bréa, par exemple. Donc, vous avez la possibilité d'y aller à pied, vous avez la possibilité d'y aller en vélo, en voiture. Donc, le quota, moi, aujourd'hui, au Mont-Saint-Michel, c'est pas vraiment la mesure la plus adaptée. On a déjà les parkings, il faut qu'on puisse être incitatif ou, en tout cas, jouer sur la grille tarifaire. Et puis, mettre des points de contrôle, vous savez, au pied du Mont-Saint-Michel, qui est un village, qui est une commune, ça générerait d'autres conflits et d'autres temps d'attente.
Donc pas question de filtrer les entrées, de les limiter, mais plutôt de les étaler. J'ai bien compris la politique du Mont-Saint-Michel. Il y a une date qui risque d'attirer énormément de monde chez vous, c'est le 31 mai. La flamme olympique va arpenter le Mont-Saint-Michel. Vous attendez combien de personnes? Qu'est-ce qui est prévu au Mont-Saint-Michel le 31 mai?
Écoutez, nous attendons 40 à 50 000 personnes si la météo est là. La météo joue un rôle très important au Mont-Saint-Michel. Mais j'insiste, le 31 mai, les 40 000 personnes seront gérer de manière très optimale puisqu'il n'y aura rien dans le village. Or, c'est le village où les rues sont petites et souvent bondées, rapidement bondées. Donc là, nous serons sur l'ensemble du site du Mont-Saint-Michel, sur la passerelle, sur le pont. Ce sera magnifique et je vous annonce que Thomas Pesquet sera l'un des porteurs de la flamme, des illustres porteurs de la flamme au Mont-Saint-Michel le 31 mai. Donc oui, ce sera une journée inoubliable et avec un confort de visite et de sécurité optimale.
Thomas Pesquet au Mont-Saint-Michel, c'est une info, c'est noté. Ce sera le 31 mai prochain. Merci Thomas Velter, directeur du Mont-Saint-Michel, d'avoir été avec nous ce matin en direct pour préciser, on va le dire comme ça, la politique du Mont-Saint-Michel vis-à-vis de cette forte influence. C'est la rançon du succès pour ce deuxième site touristique le plus visité de France. Et puisqu'on parle de la flamme, on va partir tout de suite à 8h20 à Marseille, retrouver notre reporter, notre envoyé spécial Julien Richard en direct, parce que ça y est, Julien, 8h20 à Notre-Dame-de-la-Garde. C'est le top départ. Le relais de la flamme s'apprête à s'élancer, Julien. Ah, est-ce que Julien Richard nous entend? On cherche à joindre Julien Richard, à être en direct de Notre-Dame-de-la-Garde, parce que oui, la flamme s'apprête à démarrer son relais en direct. C'est a priori dans les mains de Basile Boli là que la flamme va démarrer ce long relais toute la journée. Elle terminera son parcours ce soir au Vélodrome à 19h30 avec Didier Drogba. Entre-temps, elle va passer aujourd'hui dans les mains de plusieurs relayeurs. On peut citer Camille Combal, Jean-Pierre Papin, Soprano, et tiens notamment Éric Dimeco. Mais oui, Éric Dimeco, figure marseillaise, figure d'RMC, qui sera tout à l'heure en direct avec nous à 8h40. On va lui demander comment on sent à quelques heures évidemment de porter la flamme olympique au Vélodrome. Est-ce qu'on arrive à joindre Julien Richard? On me donne pas d'infos dans l'oreille, donc je vous cache pas que on essaye de joindre Julien. On va essayer de le joindre dans quelques minutes pour vivre en direct cet événement à Marseille depuis Notre-Dame-de-la-Garde. Mais tout de suite à 8h21, on va se faire plaisir. On va aussi sourire parce que je sais que vous l'attendez. Oui, Arnaud Demanche est là. C'est l'heure du meilleur d'Arnaud Demanche. Tiens, ce jour-là, Arnaud nous parlait de l'arrivée de Rachida Dati au gouvernement, au ministère de la Culture.
Oui, car Rachida Dati a encore frappé. On a appris dans un article du Monde qu'elle aurait balancé à Bruno Le Maire « Tu n'es qu'une grosse merde ».
Manu n'en peut plus de rire avec ce SMS.
Et à Gabriel Attal, « Ton chien, je vais en faire un kebab ». Ce qu'elle n'a pas démenti. Et elle lui a dit ça après avoir appris des coupes de budget dans le ministère de la Culture. Alors, honnêtement, en tant qu'artiste, ça fait plaisir d'avoir une ministre qui te défend avec autant d'abnégation. Vous imaginez l'euphorie dans les hôpitaux si les soignants, ils voyaient Catherine Vautrin, leur ministre, débarquer à Matignon en shootant dans la porte. Maintenant, tu débloques des crédits pour les urgences. Sinon, je vais t'arracher les yeux, je vais te les mettre dans le fion. Comme ça, tu me verras quand je te botterai le cul. Ça aurait de la tronche quand même. Les enseignants, ils ont eu Amélie Oudéa-Castéra qui était là.
Oui, mais
mais dans le privé, ils font un meilleur travail que vous.
Alors que nous, notre ministre, elle est à Bercy avec un fouet. Au Conseil des ministres, elle doit les regarder dans les yeux en leur mettant des petites claques sur la joue en leur disant « Hein ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Hein ? Qu'est-ce que tu vas faire ?» Après, elle croise les jambes, elle fout ses pieds sur la table. Il y a Stanislas Guérini qui n'ose pas passer. « Rachida, tu peux pas mettre tes pieds là ?»«
Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. »
Franchement, moi, quand elle a été nommée à la culture, j'étais inquiet. Je me disais, elle va couper dans tous les budgets, on va avoir Bolloré. En fait, on a Jack Lang en viril, quoi. C'est dingue, on est... C'est elle qu'il faut envoyer face à Poutine. C'est pas Macron qui fait de la boxe.
Le cul du fou, tiens, Arnaud a reçu une prestigieuse récompense à Hollywood. L'équivalent de l'Oscar du meilleur spectacle du monde.
C'est pas rien, quand même. Hein. Oscar du meilleur spectacle du monde pour Le Puy du Fou. Bon, leur spectacle est arrivé premier, le mien est arrivé deuxième. J'ai joué à Los Angeles.
Bravo,
et, ça,
bravo,
c'est et Philippe Devilliers, le fondateur du Puy du Fou, a des projets pour Hollywood. Tout à fait. Hollywood est intéressé par mes créations. Vous savez qu'il cherche une licence pour concurrencer le MCU, le Marvel Cinematic Universe. Et il pense donc au Puy du Fou Cinematic Universe, le Puy du FQ. Et j'ai déjà...
On peut la revoir, s'il vous plaît.
Le Puy du FQ, qui a déjà posé quelques projets, comme le film V pour Vendéen, qui raconte l'histoire d'une vendetta vendéenne pendant la chouannerie de 1798 avec l'acteur Sean Penn sur des musiques du rappeur Sean Paul. Oh. Mais le gros projet, c'est bien sûr mon projet, les Pokémon. Ah. Nous sommes dans une époque où se trouve une infinité de moines, d'où les Pokémon. Et oui. Des soldats de Dieu se livrent un combat sans merci pour savoir qui sera le plus catholique de tous. Ces suzerains cherchent donc à dresser des armées de moines soldats pour affronter leurs voisins. Et ces dresseurs de Pokémon parcourent le monde pour attraper un maximum de moines. Un jour a lieu un grand tournoi dans une arène. Le premier combat, c'est Biblichou, qui est un Pokémon de feu, contre Eretus, qui est un Pokémon des ténèbres. Ah ouais. Les moines peuvent évoluer, les franciscains peuvent évoluer en bénédictins, qui peuvent évoluer en cisterciens. Donc Biblichou évolue en Christ Attaque, mais Eretus se mute en Musul Bizarre. Et on peut collectionner les cartes de différents amis. Biblichou, Réformesh, Alléluiax, Juifounet, Papotix, Janoscourt, Hérétique au feu, Presbytruc, Psominou ou Cruciflore. Pokémon, attrapez-les tous.
Oui, allez. C'était le meilleur d'Arnaud. Dimanche à 8h25, est-ce qu'on a retrouvé Julien Richard? Est-ce qu'on peut partir tout de suite à Marseille? Julien, vous êtes là?
Oui, je suis là, est-ce que vous m'entendez?
Oui, très bien, on entend même les cloches de Notre-Dame de la Garde. Est-ce que le relais de la flamme est parti?
Ça y est, c'est parti. Alors, pour l'instant, on le voit pas parce que Basile Boli, donc qui est premier relayeur de cette flamme olympique ici à Marseille, sur l'autre monument, hein, Notre-Dame de la Garde, est en haut du clocher, 41 mètres de haut, et il est en train de descendre et il va arriver jusqu'au parvis de Notre-Dame de la Garde où l'attend Colette Cataldo, supportrice historique de l'Olympique de Marseille, fondatrice des Dodgers, qui a sacrifié le déplacement pour la demi-finale à Bergame, demi-finale de Ligue Europa de son club de l'Olympique de Marseille, pour porter donc cette flamme. Je l'ai juste devant moi là, elle tient la torche olympique, concentrée, souriante, Colette Cataldo, qui va effectuer donc ses 200 mètres avec cette flamme olympique à la main, avec dans quelques minutes déjà Basile Boli qui va lui transmettre.
Oui, Julien, elle attend Basile Boli, c'est ça, qui va lui transmettre la flamme. Mais alors ensuite, décrivez-nous, Julien, elle n'est pas seule, j'imagine, Colette, elle ne va pas courir toute seule pendant 200 mètres là.
Alors non, évidemment, gros dispositif de sécurité autour de la flamme, avec des gardiens de la flamme, hein, qui vont accompagner tout au long du parcours, partout en France, cette flamme olympique, et qui va donc encadrer Colette Cataldo tout au long de son relais. Alors il n'y aura pas beaucoup de monde ici à Notre-Dame de la Garde, en tout cas sur ses premiers mètres, si ce n'est les médias. Voilà, Basile Boli qui apparaît à l'instant, tout sourire. Basilou, comme le surnomme les supporters de l'Olympique de Marseille, celui qui avait planté sa tête en finale le 26 mai 93 contre Milan, et qui voilà, la brandit, la regarde, l'admire, hein, cette flamme-là, l'image est incroyable, hein. On a le clocher de Notre-Dame de la Garde, vous entendez les cloches, et Basile Boli donc qui brandit cette flamme olympique et qui descend donc les escaliers pour aller transmettre ce relais, ce feu original allumé à Olympie il y a maintenant quelques semaines à Colette Cataldo, la supportrice officielle.
La flamme
historique.
La flamme qui va donc passer des mains de Basilou à celle de Colette. On le vit en direct sur RMC avec vous. Julien Richard, évidemment, on va le vivre toute la journée. Merci beaucoup, Julien. Et puis, on va appeler l'un des relayeurs dans quelques instants, Eric Dimeco, qu'on connaît bien sur RMC et qui lui aussi va porter la flamme ce soir au Vélodrome. Sera avec nous dans un instant. Ne bougez pas, c'est en direct évidemment sur RMC et RMC Story. Dans un instant, la météo et le journal. 8h30 sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal en direct avec Thibaut Texer. Bonjour Thibaut.
Bonjour Charles, bonjour à tous. Marseille veut garder la flamme. L'OM joue une place en finale de Ligue Europa ce soir sur la pelouse de l'Atalanta Bergame. Marseille, capitale de l'olympisme ce matin. La flamme a quitté Notre-Dame-de-la-Garde. Début d'un périple de 12 000 km jusqu'au jour de la cérémonie à Paris. Et puis Joe Biden pose ses conditions à l'aide militaire à Israël. Il annonce un arrêt des livraisons en cas d'intervention militaire à Rafah. Déclaration jugée décevante ce matin par Israël.
L'OM à 90 minutes d'une sixième finale européenne.
Une semaine après son match nul partout au Vélodrome, l'OM quasi au complet se déplace donc à Bergame. Ce soir, 21h, match à vivre sur RMC. 750 supporters feront le déplacement en Italie pour encourager leur équipe. Une demi-finale de Ligue Europa inespérée pour un OM qui va tenter, Florent Germain, de sauver une saison plutôt compliquée.
Oui, certains supporters marseillais ont même parfois du mal à y croire. Au terme d'une saison marquée par des tensions en coulisses, par trois changements d'entraîneur et par des résultats indignes en championnat, Marseille est à un petit match d'une sixième finale de Coupe d'Europe dans son histoire. Le milieu de terrain Jordan Veretout reconnaît que l'OM est transcendé par cette Ligue Europa.
On a fait des choses bien, des choses un peu moins bien cette saison. Maintenant, on est en demi-finale de Ligue Europa, d'une Coupe d'Europe. C'est quelque chose de fort pour un joueur, pour un club, pour une ville. On va tout donner sur le terrain, on va se dépasser. On a envie de le faire pour eux aussi. Ils nous ont pas lâché cette saison. Ça a été difficile. Mais voilà, on va tout donner. On va donner le max.
Accrocher une finale de Coupe d'Europe, voilà qui pourrait redorer l'image d'un groupe qui a beaucoup souffert, reconnaît l'entraîneur Jean-Louis Gasset.
Le groupe a souffert, bien sûr. Il y a eu des hauts et des bas. Il y a eu des bonnes périodes, des mauvaises périodes, des périodes de doute. Ils sont conscients qu'ils sont à un match. D'un match historique et une concentration extrême.
L'OM est donc en mission pour sauver sa saison, voire la rendre inoubliable en déplaçant des milliers de supporters marseillais à Dublin le 22 mai prochain.
Marseille, ville olympique, après l'arrivée de la flamme hier allumée par le rappeur marseillais Jul, entrée majestueuse de cette flamme dans le vieux port à bord du Bel Aim, traversée par la patrouille de France devant plus de 150 000 personnes venues assister à ce moment d'histoire des Marseillais. Très nombreux encore ce jeudi à suivre le départ du relais. Vous venez de le vivre en direct sur RMC il y a quelques instants avec Julien Richard. La flamme a quitté Notre-Dame de la Garde dans les mains de Basile Boli, relayé par Colette, 83 ans. Notre-Dame de la Garde, lieu emblématique de Marseille. Et ce n'est Caroline Philippe que le premier périple, d'un long périple de 69 jours.
Un parcours sportif, évidemment, puisque la flamme grimpera le Mont Ventoux, foulera la pelouse du stade Geoffroy Guichard de Saint-Étienne, sans oublier la terre battue de Roland-Garros. Elle ira même sous l'eau à Villefranche-sur-Mer pour une séance d'apnée. Mais la flamme plongera aussi dans l'histoire de France, avec un passage devant les grottes de Lascaux ou le château de Versailles. Elle rendra aussi hommage à des figures comme le général de Gaulle à Colombelles, les deux églises ou Jeanne d'Arc à Orléans. Valoriser l'histoire et le patrimoine français avec un arrêt dans les vignobles de Saint-Émilion, sans oublier la culture avec une descente des marches du Palais des Festivals à Cannes ou encore une visite au Puy du Fou. Ça, c'est pour la France métropolitaine, mais la flamme sillonnera aussi les territoires ultramarins, Guadeloupe, Guyane, Nouvelle-Calédonie ou encore La Réunion.
Et la flamme qui arrivera à Paris le 26 juillet prochain, portée par plus de 10 000 relayeurs. Elle traversera 12 000 km et plus de 400 villes. Il est 8h33, vous êtes sur RMC. Israël estime très décevante la menace de Joe Biden. Pour la première fois, le président américain a annoncé cette nuit à CNN sa volonté de poser une condition au soutien militaire à l'État hébreu.
Des civils ont été tués à Gaza à cause de ces bombes ou par d'autres moyens avec lesquels ils attaquent des lieux où la population se concentre. J'ai été clair, si l'armée israélienne entre dans Rafah, ils ne sont pas encore rentrés, je cesserai de fournir des armes qu'ils ont déjà utilisées contre des villes. Nous continuerons à nous assurer qu'Israël est protégé par le dôme de fer, son bouclier de défense anti-aérien, en cas d'attaque comme il y en a eu récemment, mais c'est mal viser des civils. Nous ne livrerons plus les armes et les obus d'artillerie.
L'ambassadeur d'Israël à l'ONU évoque une déclaration très dure qui, je cite, donne un espoir à nos ennemis. Le gouvernement sur le pont. À un mois des élections européennes, 29 ministres sont en déplacement ce jeudi. L'exécutif en prise avec le terrain pour tenter d'enrayer la baisse des intentions de vote pour le camp présidentiel dans les sondages. Frédéric Valletoux, ministre de la Santé, sera lui à Mayotte où l'épidémie de choléra a fait hier une première victime. Les précisions de Mao Bécard-Granier.
Oui, il s'agit d'un enfant de 3 ans décédé hier dans la commune de Kungu. Depuis la mi-mars, plusieurs cas de choléra avaient été recensés sur cette île française. Au départ, il s'agissait principalement de contamination par des personnes revenant des Comores. Les Comores où l'épidémie flambe, 98 personnes sont déjà décédées. Mais depuis 2 semaines, des cas autochtones ont été recensés, c'est-à-dire des patients porteurs du choléra alors qu'ils n'ont pas quitté l'île. Et ce, malgré la mise en place depuis février d'un protocole pour éviter la propagation de la maladie. Au dernier bilan datant de lundi, 58 cas de choléra, dont 6 actifs, ont été recensés. L'Agence régionale de santé préconise de se laver les mains fréquemment et de boire de l'eau potable uniquement. Une consigne difficile à respecter alors que l'île est soumise à d'importantes restrictions d'eau.
Les précisions ce matin de Mao Bécard-Granier pour RMC. Et puis tiens, on connaît l'affiche de la grande finale de la Ligue des Champions le 1er juin à Wembley. Le Real Madrid affrontera Dortmund en finale. Mené 1-0, les Espagnols ont renversé le Bayern Munich hier soir pour s'imposer finalement 2-1.
Et puis les courses, Thibaut, aujourd'hui c'est à Paris-Longchamp.
Et c'est en nocturne, rendez-vous à 20h15 sur RMC Découverte. Le 9, spécial, est le favori de la Dream Team RMC. Et puis son outsider, moi je l'aime bien, c'est le 2. On y croit, le 9 et le 2.
On y croit pour l'OM, c'est ça?
Bien évidemment.
Évidemment, pour l'Olympique de Marseille ce soir, en déplacement à Bergame. Soir exceptionnel à vivre sur RMC. C'était le journal de Thibaut Texer, 8h36.
À suivre dans Apolline Matin sur RMC.
Dans un instant, deux invités exceptionnels sur RMC. Éric Dimeco, en direct de Marseille, où il s'apprête à porter la flamme olympique. Il sera l'un des tout derniers relayeurs ce soir. Éric, qui sera sans doute porté par la musique officielle des JO. On l'a découverte hier pour la première fois. Son compositeur, Victor Lemann, est aussi notre invité en direct sur RMC et RMC Story dans une minute.
RMC, Apolline Matin.
Charles Magnin.
8h39 sur RMC et RMC Story, on part à Marseille.
RMC, radio officielle des Jeux Olympiques Paris 2024.
Et on l'a vécu en direct à l'instant avec notre reporter Julien Richard. Le relais de la flamme olympique a débuté. On a vu Basile Boli transmettre la flamme à Colette Cataldo. Ça y est, la flamme est partie de Notre-Dame de la Garde. Plusieurs grands noms vont se relayer tout au long de la journée. On voit en direct sur RMC Story la flamme descendre les marches de Notre-Dame de la Garde avec Basile Boli, puis Colette Cataldo. Mais ensuite dans la journée, Jean-Pierre Papin, Didier Drogba, Soprano vont porter la flamme, mais aussi un certain Éric Dimeco. Bonjour Éric.
Salut Charles, salut à tous.
Alors Éric, j'ai envie de te demander d'abord si tu as bien dormi, quel est le sentiment ce matin? Est-ce qu'il y a un peu de stress quand on sait que dans quelques heures, on va brandir la flamme olympique?
Non mais le stress, il est depuis un moment, hein, depuis qu'on m'a demandé de porter cette flamme, je suis stressé. Donc la journée d'hier a été très longue, hein, donc j'ai bien dormi cette nuit, mais ce matin, en regardant toutes ces images,
On t'a perdu, je crois, Éric. Oui, on t'entend bien, là, ça y est. Raconte-nous, Éric, à quelle heure précisément, parce que j'imagine que c'est millimétré, tu sais exactement à quelle heure tu vas avoir la flamme, où tu seras, jusqu'où tu dois courir, etc.
Alors, ça va se passer autour du stade Vélodrome, et mon passage est prévu à 19h09. Alors, en sachant qu'il y a une petite incertitude.
Ah, Éric, on
voilà, ça va être...
On te perd, on a un problème de liaison, Éric. On va essayer de te rappeler, peut-être que ça passera mieux au téléphone. Mais j'ai bien noté l'horaire, 19h09. Moi, je vais suivre ça, évidemment, et on le suivra en direct sur RMC. On a un deuxième invité qui est lui aussi un acteur essentiel de cette journée, de ces Jeux. C'est Victor Lemann. Bonjour, Victor Lemann.
Bonjour.
Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, ça passe bien par téléphone. Je vous entends bien. Et on va entendre surtout... avec vous, Victor Lemann, de la musique. Parce que vous êtes le compositeur de cette musique, celle qu'on entend, celle qu'on a découverte hier, quand Florent Manaudou est descendu hier soir du Bellem avec la flamme olympique. Vous êtes le compositeur de la musique officielle de ces JO de Paris 2024. Victor Lemann, racontez-nous, ça fait combien de temps, parce que le secret était bien gardé, combien de temps que vous travaillez sur ce thème, sur cette musique qui s'appelle Parade?
Je crois que j'ai commencé à travailler peut-être en mars
de l'année dernière, quelque chose comme ça. Donc voilà, ça fait un peu plus d'un an. Mais je suis également directeur musical et compositeur de l'ensemble des cérémonies olympiques et paralympiques. Donc il y en a quatre, ouverture, clôture et ouverture, clôture, paralympique. Et ça, donc parade, c'est une des musiques que l'on entendra pendant les cérémonies. Mais c'est vrai que c'est comme si c'était la bande-annonce, c'est la première sortie. Et j'espère, je pense qu'on va l'entendre beaucoup, je suis très fier.
Ah bah oui, on va forcément l'entendre beaucoup, notamment sur RMC, radio officielle de ces Jeux Olympiques. Mais hier, vous l'avez joué en plus, en direct, du côté du Vieux-Port à Marseille. Forcément une émotion particulière à ce moment-là, non, de pouvoir enfin jouer, enfin dévoiler cette chanson.
Ouais, c'est incroyable, c'était un moment complètement magique pour moi. Au même moment que l'arrivée du Belém, on l'a joué avec l'orchestre de l'Opéra de Marseille. Moi, je me suis mis avec mon groupe à côté, j'étais au piano. C'était vraiment un moment fou, surtout que moi, la conception de ce thème, de ces quelques notes, au départ en tout cas, c'est quelque chose de très intime. C'est moi tout seul avec mon piano dans un studio, c'est souvent... très très solitaire comme exercice. Puis après, petit à petit, je l'ai fait écouter à Thomas Joly, à Tony Estanguet, à Thierry Auboul, à tous les gens avec qui je travaille au quotidien. Et ça a monté. Je l'ai fait jouer par l'Orchestre National de France, par des chœurs, par beaucoup. Il y a plus de 500 musiciens qui ont joué en tout sur cette bande originale. Donc c'est vrai que voilà, ça a été crescendo jusqu'à hier.
Et comment on s'y prend pour composer un hymne des JO? Est-ce que vous avez eu des consignes particulières, des mots-clés? De quoi on s'inspire?
Non, franchement, on s'y prend comme si on écrivait une chanson, enfin une grande chanson. Ouais. Donc je l'ai fait vraiment comme... je suis comme en fait un artisan, en fait. C'est vraiment fait à la main, je dirais. C'est-à-dire que je le fais vraiment voilà, avec mes outils... classique, c'est-à-dire voilà, je vous dis au piano, etc. Au début, je me suis pas forcément dit je suis en train de composer l'hymne des Jeux. C'est en fait au fil de l'écriture, au fil de l'eau, le thème prenait vraiment de l'ampleur et je me disais mais là je tiens vraiment quelque chose de fort, j'ai l'impression. Et j'ai commencé à m'imaginer tout ça et puis j'en ai parlé à Thomas Joly, à Tony Estanguet, etc. qui l'ont choisi. Mais c'est vrai que dans mon écriture, je pensais à toutes les émotions du sport, que ce soit évidemment le moment de la victoire pour les athlètes, mais aussi celui de la défaite, le moment des spectateurs quand ils rentrent sur le stade, etc. Enfin, toutes ces choses, c'est vraiment des moments en fait narratifs qui sont très forts et très inspirants pour un compositeur.
Parce que Victor Lemann, vous êtes aussi le directeur musical des cérémonies donc d'ouverture, de clôture des JO et des Jeux paralympiques. Il va y avoir d'autres surprises, non, j'imagine, d'un point de vue musical. Est-ce que vous pouvez nous en dévoiler quelques-unes là dès ce matin?
Malheureusement, non, je peux pas vous dévoiler de surprise parce que voilà, l'idée c'est que la surprise soit totale le jour de l'ouverture, par exemple du 26 juillet 2024. Mais oui, je suis en charge de ça.
Mais alors, juste sans nous dévoiler de surprise, Victor Lemann, est-ce que ce matin tout est prêt d'un point de vue musical? Il n'y a plus une note qui va bouger jusqu'au 26 juillet. Tout est calé à la seconde près pour d'un point de vue musical pour la cérémonie d'ouverture.
On est encore dans les répétitions. Thomas Joly est encore en train de voir pour les costumes, la danse, etc. Donc oui, le gros du truc est là, bien sûr, mais évidemment ça peut encore tout à fait bouger parce que il faut s'adapter jusqu'au bout, jusqu'au 26 juillet, on va s'adapter. Il faut être élastique en fait jusqu'au bout. Et puis le jour J, c'est ça qui est magnifique. Si je parle de la cérémonie d'ouverture, oui, c'est que c'est une performance unique. C'est pas quelque chose qu'on va faire deux fois.
Oui.
C'est quelque chose qu'on va faire une fois. Donc, et on peut pas évidemment la répéter sur place pour les raisons qu'on imagine. Donc, tout doit être.
Un secret très bien gardé. Secret... Tout va être millimétré. Et Victor voilà. Lemal, bon, pour patienter en attendant, on a donc cette parade qu'on a découverte hier, qui fait l'unanimité depuis hier. On en profite encore un peu sur RMC. Merci d'avoir été avec nous en direct, Victor Lemal, pour nous dévoiler, les coulisses de cette composition. On a retrouvé aussi Eric Dimeco en direct depuis Marseille. Alors, Eric, toi aussi, tu l'as découverte comme nous, cette parade, cet hymne officiel des JO. T'en penses quoi, Eric, de la bande-son des Jeux?
Bon, tout était parfait hier, hein. La musique aussi, bien sûr, qui est très solennelle, hein, très JO compatible et superbement composée du coup. Puis les images de Marseille avec la parade dans la rade là, j'ai trouvé ça merveilleux. Superbe pub pour notre ville et puis tout quoi. Et le concert de soprano hier soir qui est quand même un de nos ambassadeurs les plus aimés. qui a été super parce que je l'ai regardé du coup.
Il y a, y a voilà. un point musical qui a fait un peu débat, on l'a vu ce matin nous au 32-16 dans les messages sur l'appli RMC, c'est le choix de Jules pour allumer le chaudron. Est-ce qu'à Marseille hier soir ça a fait l'unanimité ou est-ce que voilà, on a senti certains qui regrettaient par exemple l'absence de Zidane?
Oui oui, ouais. Non mais le problème c'est ça, c'est que le nom de Zizou est et a circulé longuement, j'étais persuadé que c'était lui. Je trouvais que c'était le plus ambassadeur de notre ville hein, sportive. Hein. Il aurait pu avoir Eric Cantona. Basile aurait pu avoir ce rôle-là aussi, bien sûr. Mais il n'est pas marseillais, Basile. Donc, c'est vrai que je pense que la déception vient de la surprise parce que tout le monde entendait Zizou. Voilà. Après, Jules, c'est aussi un ambassadeur de la ville.
Hein. Mais et bon, puis, alors, aujourd'hui, il n'y a pas de polémique. Éric Dimeco, Jean-Pierre Papin, Didier Drogba, Soprano, ce soir, tu nous disais, Éric, tu seras à 19h09, hein, j'ai bien noté, au Vélodrome. Est-ce que tu sais précisément qui te donne la flamme et à qui ensuite tu la transmets?
Alors non, on va être briefé à partir de 17h, là, donc j'apprends des infos en t'écoutant d'ailleurs, puisque ou en écoutant BFM, puisqu'on m'a dit que j'allais être l'avant-dernier relayeur donnant la flamme à Didier Drogba.
Oui, c'est ce que j'ai comme info pour l'instant, mais je voulais savoir si tu en savais plus sur qui te l'a donné juste avant toi.
Ouais, mais tu sais, on apprend souvent des trucs par la presse avant de les savoir nous-mêmes. Hein, même dans le foot, des fois, on apprend qu'on est transféré alors qu'on ne le sait même pas. Donc,
Éric Dimeco, est-ce qu'il y a eu un entraînement particulier? Est-ce que ça fait des semaines qu'on répète, je ne sais pas, avec un bâton? J'entendais Giroud dire qu'il s'entraînait avec une brique de lait pour porter cette flamme qui pèse quand même un peu lourd.
Non, moi je me suis surtout entraîné à courir un petit peu, parce qu'on peut marcher, mais j'aimerais bien courir un peu. Et c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai plus couru, parce que j'ai des gros problèmes de jambes dus à un accident de voiture, et puis au foot, l'arthrose, tout ce qu'on sait. Donc, je serai sous anti-inflammatoire, et puis je trottinerai un petit peu. Mais vu qu'il n'y a que 200 mètres à faire, je vais peut-être marcher, parce que j'ai envie de profiter du moment.
Éric, bouge pas, on va profiter, on va justement débriefer avec l'une des premières relayeuses de la flamme, c'est Colette Cataldo, qui est en direct avec nous, avec Julien Richard.
Oui, Colette Cataldo qui vient de porter la flamme et qui est avec nous. Colette, quelle émotion vous avez ressentie là?
Une émotion intense parce que c'est pas arrivé à tout le monde, c'est pas tout le monde. Bon, on est une centaine à la porter à Marseille, mais c'est sans de favoriser quoi.
Des mains de Basile Boli.
Alors Basile Boli, justement, Eric, j'ai dit Eric, voilà, ça a été mon collègue tout le matin, il a fait attention à moi plus que toi.
Parce que je crois qu'elle a un message pour toi, Eric.
Oui, j'ai entendu Colette.
J'aurais aimé vous avoir tous les deux, tu le sais.
Hein,
vous
êtes je sais.
Plus de, toi et Didier Deschamps, c'est les trois plus que j'aime bien. Des souvenirs d'avant. Mais j'ai eu la chance de tenir la Coupe d'Europe. Alors voilà, la flamme, ça a été l'apothéose.
Colette, quand même, pour Marseille, c'est incroyable ce qui se passe là depuis hier et
oui,
aujourd'hui.
Surtout, il y a eu 200 et quelques mille participants. Et en plus, il n'y a pas eu de bagarre. Il n'y a pas eu. On a été une ville de tolérance et d'exemple hier. Voilà, comme ça doivent se passer les grandes fêtes.
Vous êtes fiers?
Ah ouais, je suis fier d'être marseillaise, franchement.
Merci beaucoup,
et la
Colette.
La fierté de Colette Cataldo qui vient de porter la flamme. Et donc ce soir, Éric la portera aux abords du stade Vélodrome. Bon, Éric, dernière question évidemment. Ce soir, la flamme à 19h09. Et puis ensuite, il y a le match quand même aussi. Éric, là, on parle beaucoup JO, mais il y a l'OM qui joue ce soir face à Bergame, demi-finale retour de Ligue Europa. On sait déjà où on va regarder le match. Bah, peut-être au Vélodrome, non, si la flamme y est.
Alors moi j'aime bien regarder les matchs tranquilles chez moi, mais là c'est vrai que ça va être un petit peu particulier. Oui, on est plein d'espoir avant ce match-là, même si on sait que ça va être difficile. On espère juste que la journée se finira bien, parce que il faudrait pas finir la journée avec la gueule de bois, vu comme elle commence, elle est superbe cette journée. Il vaudrait mieux que ça se passe bien. Maintenant, on sait qu'en face c'est fort, que nous on n'est pas très bon à l'extérieur depuis le début de la saison, mais on est plein d'espoir et on sent que cette équipe-là est tendue vers l'objectif, donc on va leur faire confiance et puis on n'aura pas de regrets quoi qu'il arrive. Voilà.
Ouais, alors on joue au prono ou pas, Éric Dimeco? On se mouille?
On se mouille, écoute. J'espère un petit nul qui nous amènerait à une qualification au pénalty comme contre Benfica. On n'a pas beaucoup gagné de matchs à l'extérieur cette année, donc ce serait la bonne idée de le faire ce soir. Mais au moins, si jamais on n'y arrive pas, au moins être solide et amener cette équipe au bout de la nuit.
Donc c'est ça la soirée idéale, 19h09, le relais de la flamme, Didier Drogba qui allume le chaudron au Vélodrome, Eric Dimeco, et puis ensuite donc la victoire de l'OM, c'est tout le mal qu'on souhaite évidemment aux Marseillais ce soir. Ce sera à vivre sur RMC, tous ces événements, toute cette journée. Eric, je ne sais pas ce qu'on se souhaite à quelques heures de porter la flamme. Bon relais.
Oui, voilà, bon relais et surtout essayer de ne pas la faire tomber, voilà.
Voilà, surtout, voilà, on évite de faire le zapping pendant 10 ans. Eric, voilà, ce soir, c'est l'objectif ce soir, tout va bien se passer évidemment pour Eric Dimeco. Tous les relayeurs aujourd'hui, on vivra ça en direct, vous l'entendez sur RMC, Julien Richard est sur place, vous ne manquerez rien ce matin en écoutant RMC, il est 8h52. Dans un instant, ne bougez pas, votre journal de 9h, et puis vous allez retrouver le meilleur des GG sur RMC.